Fuguefeuille, bonjour.
Bonjour Françoise.
Alors avec Petite Fleur de Mandchourie, vous nous livrez votre vie alors que vous avez juste passé 35 ans. C'est important de regarder vers le passé.
Oui, je crois, oui. C'est une sorte de miroir, l'histoire. Pas que pour moi, hein. Pour l'humanité, c'est pareil.
Alors, écrire le passé, c'est important, puisque vous aviez eu un grand-père qui était un lettré et qui vous avait dénié le droit d'apprendre parce que vous étiez une fille. Alors, le fait aujourd'hui de vous exprimer par l'écriture, c'est probablement une grande satisfaction.
C'est une sorte d'attrapage de la manque. J'ai une amie dessinateur italienne. Quand il était petit, il adorait dessiner. Mais son père ne le laissait pas dessiner, donc il dessinait en cachant sur son table d'étudiante. Donc il est caché, il dessinait comme ça. Et finalement, quand il est grand, il est devenu dessinateur naturellement. Je pense que c'est une drôle de manière de penser à l'éducation. Peut-être si on veut un enfant faire quelque chose, il faut l'interdire.
C'est une revanche sur la vie en quelque sorte. Alors, l'arrivée de Mao, puis de la révolution culturelle, fut un séisme pour votre famille, où l'on comptait une princesse mandchoue, votre grand-mère.
Cynisme.
Un séisme.
Séisme, qu'est-ce que c'est?
Une vraie catastrophe.
Une catastrophe. Je suis née après, donc je n'ai pas vécu moi-même la catastrophe de première personne. J'ai beaucoup entendu qu'on me raconte, et j'ai vu que mes parents et mes grands-parents ont une vraie différence dans le statut social, dans la manière de se comporter, de parler. Je pense que dans la dynastie, l'empereur de Qin, lui aussi, il a brûlé beaucoup de livres, il est intelligent. En fait, ce type de catastrophe, soit naturelle ou artificielle, il y a toujours un côté, mais incroyablement mauvais, parce que ça coupe la culture, ça tue les gens, ça crée beaucoup de problèmes. Mais de notre point de vue à nous, on dit toujours, si on veut construire quelque chose, il faut le casser. Je ne dis pas qui a raison ou qui a tort. De mon point de vue, à moi, personnellement, j'ai regardé mes grands-parents, mes parents. Je le vis comme si, presque taoïsme, ok, l'eau monte, ça nuit une ville entière, on disparaît, on recommence, on est cassé, on reconstruit tout. C'est une sorte de philosophie qui me, avec l'âge peut-être, petit à petit, me fait... Je ne dirais pas pardonner parce que je n'étais pas là, mais je pense que je le regarde avec un tout petit peu de recul via les regards de mes parents et de mes grands-parents.
Oui, la destruction pour donner plus d'énergie, ça se discute et ça se réfléchit.
Pas pour les gens qui sont dedans, peut-être pas pour les gens qui ont vécu ça indirectement.
Il faut du recul. Alors, votre père fut garde rouge, envoyé à la campagne comme tous les jeunes de sa génération, puis bûcheron. Et là, il touche son premier salaire, l'équivalent de 37 yuan et quelques avantages en nature pour 6 jours de travail sur 7. Ça paraît pas une vie très idyllique.
Lui, il était en première personne. Il y pensait pas parce que c'est difficile de comparer avec le temps. Hein. Aujourd'hui, on est en 2015. C'est difficile de comparer qu'est-ce que c'est un yuan aujourd'hui qu'à l'époque. Avec 37 yuan, il a à peine de quoi manger. Mais mon père, il est de nature très joyeux. Je le vois même en ramant. Il ne montre pas son côté détruit ou fatigué de la vie. Même aujourd'hui, hein, à 60 ans, quand il est venu en France pour me visiter, il nage dans la piscine, il est heureux par des petites choses. C'est plutôt la nature de sa personnalité qui compte plus que finalement à l'époque s'il s'en sort bien ou pas. Comme un enfant, on ne le voit pas en fait.
Oui, c'est bien d'avoir un caractère heureux quand les choses sont difficiles autour de soi. Alors, vous êtes né dans une Chine communiste à des années-lumière de la Chine d'aujourd'hui. Quel regard jetez-vous sur la Chine de maintenant?
Je pense que la chose très difficile de faire, c'est de se comprendre. Je regarde la Chine comme si c'était une partie de moi. Quand je vois les défauts, les pollutions, les opportunismes, des gens qui se tuent pour l'argent, ou des gens qui s'aiment, ou des gens qui apprennent, des gens qui oublient, je fais beaucoup d'auto-réflexion, comme si c'était miroir pour moi-même. Je pense toutes les choses qui se passent en Chine et toutes les Chinois ou les Chinois font partie de l'humanité que, puisque je suis un être humain, ce sera pas un alien pour moi. C'est pas un étranger pour moi. Je le vis quand je vois quelque chose de violent, je me suis dit waouh, moi aussi j'ai écouté ce violent en moi puisque je suis moi aussi un être humain. Donc Je jette un regard sur le soir.
Ça vous permet de revenir un petit peu sur vous. Quels souvenirs avez-vous gardé de vos premières années dans le camp forestier en Mandchourie où travaillaient vos parents?
Ah, c'était génial. J'avais des souvenirs des poissons salés avec la pluie. J'ai des souvenirs des cochons. Je courais après des cochons. Le petit piano, mon père m'a offert surréaliste, qu'il y avait 13 notes en noir et blanc, et je croyais que c'était le vrai piano. pendant 16 ans, je pensais que c'était le vrai piano. Et mes parents m'aimaient beaucoup. Il y avait beaucoup de l'air frais, beaucoup d'amour. Et j'étais la petite leader des enfants dans la campagne. Et on attrapait les petits serpents pour les faire boire, les faire danser. Et j'étais l'enfant un peu génie de petit camp. Mon père était très fier parce que j'arrivais à mémoriser beaucoup de mots. Donc je ne me souviens pas du tout du côté dur de l'enfance dans la forêt, dans le camp. Et que d'écouter, mais génial, vraiment génial. Grâce à cette partie pauvre et naturelle qui me donne ce côté, entre guillemets, sauvage, puisque je n'étais pas vraiment éduquée. Et je me suis dit que dans la nature, tout est possible. Et c'est ça qui donne une certaine oxygène de qui s'appelle le courage.
Ça vous a donné de la force?
Beaucoup, beaucoup, oui. Je crois que c'est là que j'ai stocké tous les stockages de courage qu'il fallait pour toute une vie.
En tout cas, vous n'avez pas hésité à faire boire du saké à ce petit serpent.
La peau, le petit serpent.
Et puis, moins 30 degrés ne vous faisait pas peur, en fait. La vie était douce avec moins 30 degrés, parce que vous aviez la mort de vos parents et que vous étiez une enfant heureuse.
Parce qu'on a peur des choses qu'on ne connaît pas. On n'aurait pas peur des choses qu'on connaît bien. Je suis habituée de moins 30, donc ce n'était pas un problème. Et souvent, on fait une sorte de fascination où on imagine quelque chose d'horrible parce qu'on ne le connaît pas. C'est comme si on fabrique un tigre en papier et après on dit « Oh là là, le tigre, ça fait peur !» En fait, pas du tout. Ça fait pas si peur que ça, le moins 30.
C'est ça, faut juste aller voir. Si vous nous racontiez justement l'histoire de ce petit cochon noir et de la machine à coudre qui s'est transformée en radio. J'adore cette histoire.
Ça, c'est mes parents. C'est vraiment haut, là. Mais mes parents étaient pauvres, donc matériellement très pauvres. Et quand ma mère a appris qu'elle était enceinte, elle ne sait pas comment elle va faire vivre cet enfant qui va arriver. Donc elle a demandé à mon père de partir chercher un petit cochon dans le marché qui n'est pas très loin. Comme ça, elle peut, pendant la période que je grandisse dans son ventre, elle peut aller chercher des nourritures pour le cochon et donner tout ce qu'elle peut récupérer dans la cantine. Comme ça, un jour, le cochon sera grand et on peut le vendre et acheter une machine à coudre. Comme ça, ma mère peut travailler comme dans le couturier pour faire des chaussures, faire des petits vêtements pour les ouvriers, pour gagner de l'argent, pour me nourrir. Tout un programme d'à côté de ma mère. Réaliste, bien rangé. Et mon père, quand il a vu que le cochon grandisse jour après jour, et le moment quand il doit vendre le cochon, c'était un après-midi, il était parti avec le cochon pour aller dans un marché qui est pas très proche de forêt. Et quand il est rentré dans l'après-midi, au lieu de venir avec une machine à coudre de marque désignée par ma mère, il est venu avec une radio. Une radio qui, à l'époque, en 79, c'était surréaliste d'avoir une radio en fin fond de nord de Chine, d'un camp forestier. Ma mère ne savait pas même ce que c'était, le truc avec deux ronds. Et en fait, mon père, il a vu dans le petit village où il a vendu le cochon, au lieu d'aller chercher une machine à coudre, il a pris une radio parce qu'il a pensé que comme ça, il peut faire écouter sa fille les chansons et la radio de Tonton Yitun. Et c'était quand même le dernier cri, la dernière technologie de village. Personne n'a jamais eu un truc pareil. Il était très fier, mais pour ça, ma mère faisait la tête jusqu'à l'accouchement. Parce qu'elle ne voit pas comment ce idiot qui s'appelle mon père qui va faire tourner sa radio pour nourrir sa fille. Comment tu peux nourrir ta fille avec la radio? Mais très curieusement, c'est grâce à cette folie de mon père, qui n'est pas du tout réaliste, qui rendait ma mère très triste pendant un grand moment. J'ai appris anglais 16 ans après, avec la radio, puisque j'ai commencé en autodidacte les programmes de radio d'enseignement de langue anglaise en chantant. J'ai appris plus que 200 chansons américaines des années 60-70 grâce à ce programme de radio. Mais 16 ans après, mais personne n'aurait jamais dû imaginer que je peux faire ça. Et c'est grâce à cette radio-là, qui est transformée par un cochon, que j'ai passé beaucoup de nuits en dormant et j'étais un enfant assez obéissante puisque j'adore écouter les radios et les chansons.
Enfin, voilà, l'histoire de cette radio est tout à fait formidable. En tout cas, vous n'aimiez pas l'école, que vous quittez à 17 ans, et pourtant vous avez une formidable capacité d'apprendre. Comment vous expliquez cette différence entre le manque de goût pour l'école et la soif d'apprendre?
Je pense qu'il y a deux choses. C'est plutôt l'appétit qui vient de Roger. Donc l'appétit qui compte beaucoup dans l'enseignement. Je crois que beaucoup de professeurs seraient d'accord. Le meilleur professeur, c'est la curiosité. Et après, à l'école, comme je viens de quelque part de la forêt, que c'est une sorte de liberté totale, et j'ai vu comment j'étais malheureuse dans l'école de faire ce sport collectif.
Vous étiez enfermée, en fait.
Oui, on est enfermée et surtout, on n'a pas le droit d'avoir une personnalité, de s'exprimer correctement ce qu'on veut. Donc, je me suis endormie de moi-même pendant 10 ans, entre 5 et 15. Et grâce à un livre, je m'ouvre. Mais en tout cas, pendant cette période-là, je détestais moi-même et l'école.
Et ce livre, c'était Le monde de Sophie, qui fut une étape importante dans votre adolescence. Et à ce moment-là, vous posez à votre mère des questions du genre « Pourquoi on vit ?»
Ma pauvre mère, elle a fait son 2 ans d'études dans sa vie, et elle doit reprendre « Pourquoi on vit ?» Le monde de Sophie, c'est un livre qu'on a trouvé par terre. Elle a acheté, c'est un livre piraté. En Chine, à l'époque, il y avait beaucoup. Et ça m'a totalement bouleversée, parce qu'il y avait beaucoup de questions, je ne trouve pas la réponse. Et quand ma mère faisait la cuisine, et je la secoue, je dis « Maman, pourquoi on vit ?» Et elle, au début, elle pensait que c'était une blague, elle essayait de me calmer avec la nourriture et tout ça. Et après, quand elle voit que je souffre de toutes ces questions, parce que personne, quand elle répond « Pourquoi on vit ?» puisqu'on va tous mourir, puisque tout ce qu'on apprend et tout ce qu'on mange, tout ce qu'on écrit va disparaître. Tout. Mais pour quelle raison on vit si tout va disparaître ? Et en plus, je ne comprends pas pourquoi le monde est comme ça. Ça vient de où? L'univers vient de où? L'origine du monde, c'est où? Pourquoi l'être humain existe et on est différent que les chats? Et pourquoi nous sommes plus importants que les autres animaux? Et pourquoi on travaille, on mange et on va aux toilettes et après on revit, on dort et après on se marie? À quoi ça sert à la fin?
Et pourquoi?
Et ce livre a vraiment marqué une époque de mon côté, une sorte de déchirement de l'un derrière et de mes parents, parce qu'ils ont beaucoup souffert. Mes parents, à la fin, elles voulaient m'envoyer dans un hôpital de tête.
Mm-hmm. Hôpital psychiatrique.
À l'époque, ça n'existait pas ce mot pour les Chinois. Parce qu'elles ne voient pas d'autre solution. Elles pensaient que j'étais malade grave. Et je ne trouve pas la réponse. Je posais des questions aux gens dans la rue. Je posais des questions à mes professeurs, aux arbres. Comme j'étais devenue un peu folle, en fait. Objectivement, pas subjectivement. Et ma mère a pensé que je suis foutue, quoi. Et j'étais très méchante comme enfant. J'ai menacé mes parents. J'ai dit que si vous ne me laissez pas hors l'école, si vous me forcez à aller au lycée, je vais me suicider. En fait, les parents, les pauvres parents, enlever un enfant, comment c'est difficile. Et d'entendre ça à 16 ans, ça va être épouvantable à vivre. Ma mère pleurait, elle ne comprend pas pourquoi les autres enfants sont normaux. Il n'y a que moi qui est malade. Et malade à l'intérieur, en plus. Et grâce à un livre aussi, parce que je peux me balader dans la ville, dans la rue, dans des bibliothèques, et j'ai trouvé la réponse en lisant un livre quand j'avais 16 ans, 16 ans et demi. Et la réponse, je ne sais pas pour vous si c'est la même réponse, probablement pas. Pour moi, la réponse, c'était pour le monde, je suis rien. Pire qu'une poussière, parce que c'est possible, une poussière existe plus longtemps que moi. Mais pour moi, je suis l'univers, puisque pour moi, je suis le monde. Et ça me donnait une sorte de philosophie monde, un courage, une raison de continuer de vivre. Parce que pour moi, tout compte pour mon univers à moi. Ce que je mange, les gens que j'aime, comptent dans mon univers. Tout d'un coup, il y a un sens de vivre le maximum que je peux, puisque c'est moi qui décide, c'est moi le monde.
Et que votre univers est accordé à l'autre univers, au grand univers.
Absolument. On est chacun notre univers. Nous sommes tous notre créateur de notre propre univers. Et après, il y a une relation entre les univers qui est très intéressante aussi.
Est-ce que c'est de votre enfance que vient votre goût de la bande dessinée et des romans classiques chinois?
Je ne sais pas si c'est un goût, c'est plutôt des souvenirs, des images. Mon grand-parent, c'est des grands lettrés, mon grand-père lisait beaucoup, beaucoup de livres. Et mon père aimait bien les images parce qu'à l'époque, la bande dessinée, c'est un art populaire, ce n'est pas quelque chose de très raffiné. Le bande dessinée, c'est des petits papiers journaux, c'est un petit format. C'est pas jetable parce qu'à l'époque, on n'avait pas grand-chose. Donc, c'était quelque chose d'important, mais populaire. Donc, j'ai gardé beaucoup d'images dans mon enfance, de liées à images grâce à ces bandes dessinées-là. Et si un jour, j'ai pas fait partager ça avec les autres êtres humains, ce sera génial. Donc, c'était plutôt une image d'enfant que j'ai essayé de reproduire.
Et vous l'avez réussi. Est-ce que, comme tous les jeunes Chinois de votre génération, vous êtes fasciné dans l'adolescence par ce qui vient d'Occident et surtout par la musique pop?
Absolument, mais j'adorais les.
Grâce à votre radio.
Grâce à la radio qui est transformée par le cochon, j'adorais les chansons, puisque quand j'étais tout petite, j'écoutais beaucoup de chansons. Je me souviens d'avoir un poster de Michael Jackson sur mon bureau, et à côté de moi, on partage le même bureau avec les collégiennes. La fille me dit, c'est qui cette dame? Et j'étais furieuse contre elle pendant une année. Et j'ai mis des scotch en blanc sur mes doigts pour copier Michael Jackson. Et j'adorais Cat Stevens, des chansons américaines, des Beatles, des Carpenters. Parce qu'en apprenant anglais, pas seulement les pop chinois, on apprend aussi beaucoup de culture hors de Chine, qui est une certaine nourriture très riche quand on a très faim.
Effectivement. Et du coup, à 19 ans, en 98, à Changchun, vous plongez dans le monde du travail en vendant des rasoirs. Alors ça, on s'y attendait pas.
Mais quand on n'a pas de diplôme, quand on n'a rien comme relation familiale, et qu'on est une jeune fille pas très jolie, et qu'est-ce qu'on a comme beaucoup de choix? On n'a pas 10 000 choix. Mais puisque c'est moi le monde, je me suis dit, tu veux quand même provoquer quelque chose. Et dans le marché du travail, tu ne trouves pas grand-chose, sauf commercial. Et commercial, quand on n'a pas de diplôme, c'est des bas niveaux. Mais j'ai trouvé cette expérience de vendeuse de rasoirs dans la rue et porte à porte était vraiment géniale.
Ça vous a tout appris finalement.
Exactement. J'ai appris comment être rejetée et rebondir, comment rencontrer les gens, ne pas avoir peur des gens que je ne connaissais pas, parler, convaincre, recevoir, se tromper et avoir beaucoup, beaucoup de frustration et s'en sortir. Enfin, il y a tout. Je pense que c'était la base de beaucoup de choses que je fais. C'est grâce à ces mois de vendeuse de rasoirs dans la rue.
C'est bien mieux que de faire une école de commerce parce que vous avez vécu l'expérience.
Il faut peut-être parler avec les étudiants en HEC, qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école. Mais la capacité de rebondir, de ne pas avoir peur de l'échec, c'est génial dans la vie d'avoir passé par là.
Qu'est-ce qui vous animait à l'époque? C'était l'envie de réussir, de gagner beaucoup d'argent ou autre chose?
À l'époque, à 19 ans, j'avais pensé que c'était la définition de réussir, de vendre beaucoup de rasoirs dans la rue. Donc c'était de motivé par la définition provisoire de réussir. Et j'étais très motivée de gagner plus d'argent que mon père et de ramener l'argent à la maison.
Ça a marché. Le mot renoncement ne fait pas partie de votre vocabulaire.
En fait, on renonce aussi les choses qu'on ne veut plus. C'est pas de, allez, j'adore ce t-shirt en rouge et blanc et je renonce jamais. C'est pas ça. C'est plutôt que chercher une sorte de fidélité à nous-mêmes et rester fidèle et jamais renoncer à ça, être fidèle à nous-mêmes. Et après, nous, on change, on est de matière, on bouge. Comme on bouge, ce qu'on veut bouge. Donc, c'est pas de rester fidèle sur une chose ou un papier ou un business model ou un pays ou une langue. C'est plutôt rester fidèle à nous-mêmes.
Comment est née cette envie de voyager qui ne vous a jamais quitté et que vous avez poussé très loin?
On n'a pas besoin en fait nourrir, je pense que vous c'est pareil. On est curieux et c'est ça le plus grand avantage et maladie qu'on peut avoir. C'est que la planète est très grande et on est 7 milliards et la planète est tellement magnifique, vraiment. Il y a tellement de gens qu'on aurait envie de connaître, rencontrer, voir. Donc je comprends pas trop quelqu'un qui est né dans un point, qui ne bouge pas. Et qui regarde que les gens autour de lui, qui est mort dans le même point. Je ne comprends pas très bien, en fait.
Et c'est la majorité des gens.
Je ne sais pas si c'est la majorité. Peut-être qu'ils voyagent à l'intérieur. Mais moi, j'ai besoin de voyager à l'extérieur pour que je puisse voyager à l'intérieur. Peut-être qu'ils sont plus forts.
Je ne sais pas. À 20 ans, vous êtes quand même très gonflé. Vous arrivez à Shenzhen, sans contact, sans contrat, avec juste un plan dans la poche.
Puisque c'est moi le monde, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je disais à un copain qui ça l'a choqué quand je lui ai dit ça, tu dis tu comprends pas, c'est moi le monde, personne ne peut me violer. Et il m'a dit, mais tu t'entends ce que tu es en train de me dire? Et je lui ai dit que, en fait, c'est juste une forme d'expression. Mais sur le fond, je n'ai pas peur. Je n'ai vraiment pas peur.
Et c'est parce que vous n'avez pas peur que ça marche?
Peut-être. Et peut-être parce qu'on n'a pas peur, on n'attire pas les gens qui nous attaquent. Puisque souvent, c'est la peur qui attire les choses qu'on a peur.
C'est vrai. Pourquoi vous, qui maîtrisiez si bien l'anglais, avez-vous été attiré par la France alors que vous aviez un très bon poste à Shanghai?
C'est quand même beaucoup de choses dans la vie et c'est des rencontres. Hein. J'ai rencontré quelqu'un qui, par hasard, comme si le ciel m'envoyait un message. Et ce monsieur qui me conseillait, après avoir bu un café pendant 5 heures, il me dit qu'une fille comme moi, il faut que j'aille à Shanghai. Parce que Shenzhen, c'est un plat. Mais Shanghai, c'est une fiesta. En fait, dans le domaine culturel, il a raison, à l'époque, vers 2002. Et donc, finalement, je l'écoutais un peu aveuglement, puisque je sens les choses. Et quand je sens quelqu'un qui a dit un message qui touche mon cœur, je l'écoute. Pas seulement à lui, mais à mon cœur. Et donc, j'ai pris le risque. Le pire, c'est que je recommence. C'est pas très, très grave. Et finalement, c'est un très bon choix, et je trouve que c'est génial.
Et alors, après Shanghai, c'est la France.
C'est aussi la même personne, d'ailleurs, qui m'a dit...
C'est Jim.
Son vrai nom, c'est James. C'est James qui m'a dit que, tiens, une fille comme toi, Paris t'appartient. C'est gonflé de dire une chose pareille quand j'avais rien. Mais je le crois parce que je pense que tellement je suis curieuse et pourquoi pas. Et j'étais vraiment attirée par la langue française. Elle est beaucoup plus belle, selon moi, que les autres langues.
Vous faites aussi beaucoup confiance aux autres.
Je fais confiance à personne en face de moi où je sens. Je ne fais pas de confiance en frappant la porte n'importe qui. Tiens, je te fais confiance. Non, c'est quand je sens les gens, je n'ai pas besoin de 3 mois pour comprendre, pour faire confiance. Il me faut peut-être 2 heures, 5 heures. Et je sens l'énergie. Je dis, ok, cette énergie, cette personne, je le crois. Je le fais confiance.
Oui, c'est un feeling. Alors, pour étudier en France, il faut payer. Et vos parents font un énorme sacrifice.
C'est toujours un chapitre que j'ai du mal à raconter, en fait. Parce que c'est à la fois beaucoup d'amour et beaucoup de douleur qui vient avec cet amour que je vois surtout quand je vois ma mère qui est handicapée aujourd'hui hein, parce qu'elle est elle empruntait beaucoup d'argent, elle ne peut pas rembourser, qu'elle a pris un troisième boulot. Donc mes parents qui se sont sacrifiés pour vendre leur maison familiale qu'ils ont gardé pendant 15 ans de l'argent pour acheter pour que je puisse réaliser mon rêve, c'est même pas pour sauver ma vie. Pour que moi, je puisse s'en sortir dans la vie mieux que eux. Cette notion de sacrifice, c'est presque génétique. Et ça vient de loin que je ne peux pas expliquer moi-même. Mais ils ont fait la même chose pour mon frère. Ils ont emprunté l'argent pour donner. C'est comme s'ils sont prêts à se brûler carrément pour donner une chance à une sorte de renaissance à leurs enfants. Et je ne vois pas beaucoup d'enfants parents français qui le font puisqu'on n'a pas la même culture. Mais c'est à la fois douloureux de la part de l'enfant de le voir et à la fois très chargé. C'est comme si quelqu'un qui a fait ça pour vous, toute votre vie, vous êtes chargé d'amour. Vous savez que vous êtes aimé, mais inconditionnellement. Et vous savez que, sur le fond, vous êtes très très riche.
Du coup, c'est une grande joie aussi.
Absolument, oui.
Alors, en venant en France, vous aviez déjà l'idée de monter une maison d'édition de bande dessinée chinoise?
Mais pas du tout, je cherche à faire des travaux pour manger. Dans les premiers 6 mois, j'ai fait des touristes. Après, ma mère, elle a besoin de l'argent et elle a besoin de rembourser l'argent qu'elle a emprunté aussi. Donc, j'ai tout de suite cherché du travail pour m'en sortir à Paris sans donner des bois à la famille. Donc, au début, je cherchais à survivre, je faisais plein de petits boulots.
Comme en Chine.
Comme en Chine. J'enchaînais des petits boulots, je faisais des traders. Je faisais tout le temps, mais vous voulez emporter ou sur place? Et j'ai travaillé par téléphone. On travaillait avec les Chinois au téléphone la nuit pour faire des contacts commerciaux avec export et import. J'ai travaillé dans les boutiques de chaussures dans la 10e. Et en fait, je cherchais tous les travaux. Je travaillais noir, je travaillais ce que je peux pour manger et dormir.
Est-ce que vous vous rappelez votre première pensée quand vous avez posé le pied sur le sol français? À quoi vous avez pensé?
C'était plutôt en sortant de l'escalier de Châtelet, parce qu'en arrivant à l'aéroport, on ne se rend pas compte que c'est la France. Et la première lumière qui a tombé en sortant d'un certain escalier automatique, et j'ai vu pour la première fois la pierre des immeubles en France. Et je me souviens que je suis allée toucher pour vérifier si c'est vrai. Donc c'était une sorte d'émerveillement total. Et la France a été, pendant toutes ces années-là, surtout les premiers 5 ans, au-delà de toutes mes espérances, dans beaucoup de plans, au plan culturel, langage, les gens, l'art, musique, immobilier, la couleur du ciel, la nature. En fait, dans tous ces plans-là, la France dépasse ce que j'avais imaginé. Donc j'étais un enfant dans une maison de chocolat.
Donc c'était le bonheur total. Votre histoire d'amour avec celui qui deviendra votre mari a commencé avec un platane du parc Monceau. Ça, c'est pas banal.
Ça, c'est comme si on a envoyé une sorte de package. Tu as commandé un cadeau. Voici un cadeau de 80 kilos. Il tombe sur l'arbre. Bon, c'est pendant la période où j'étais vraiment déprimée parce que je ne savais pas comment je vais m'en sortir. Et comme j'habite à côté du parc Monceau, il y a un arbre que j'aime beaucoup. Il n'est pas très beau, mais il est magistral. Et je lui ai donné un nom qui s'appelle Théodore. Théodore dans le sens Déo, Dieu. J'aime beaucoup Théodore. Et souvent, quand je suis allée faire des jogging ou yoga, et je me cache derrière lui pour ne pas être vue par les gens qui passent devant. Et donc, j'aime beaucoup cet arbre. Il y a un petit morceau, presque une maladie qui sort, mais qui est sur la forme de cœur. Donc, cet arbre, pour moi, c'est vraiment ma fétiche. Et quand j'étais très triste, je réfléchis. C'est surtout ce que j'ai fait. Et je pensais que j'ai fait un mauvais choix avant de quitter la société de marketing puisque je remets en danger de la vie de mes parents s'ils sont malades. Donc je me sentais coupable, nulle. Et mon propriétaire voulait me virer puisque j'avais plus de caution et tout ça. Et là, j'étais en doute total. Je pense que je me suis trompée et grave. Et je pleurais parce que je repense à ma mère qui a handicapé la moitié de son corps, qui a une attaque cérébrale. Et je repense à sa bouche qui ne peut plus fermer. Je repense à tout ça et je me sens totalement coupable. C'est à cause de moi de ça. Donc je pleurais. Et il y avait un monsieur qui a passé, qui a entendu les gens qui pleurent derrière l'arbre. Et il tournait, il regarde qui c'est. Et ce monsieur, il n'était pas beau du tout. Il avait une veste de vieux chasseur, mais nulle. Il avait des cheveux blancs aussi. Il n'était pas le profil idéal qu'on imagine un prince charmant. Mais il avait des yeux énorme, avec beaucoup de poils, qui parle. Il avait des grands yeux. Il avait des grandes oreilles qui l'écoutent. Il a l'air sympathique et il savait écouter. Et je finis par, quand il me pose des questions, mais mademoiselle, mais qu'est-ce qui est si grave que vous cachez derrière l'arbre pour le remercier? C'était quoi le truc? Je finis par lui raconter tout. En espèce de 3-4 heures, je crois. Jusqu'à on est viré par le gardien du parc. Et c'est là que j'ai tout raconté, mes parents, mes grands-parents, pourquoi je voulais faire ce métier, qu'est-ce que je faisais avant, pourquoi tout ça. Et lui, il est fini par me dire, il me dit que je suis très touchée par votre histoire, mais je n'ai pas d'argent pour vous aider à monter une maison d'édition. Ce que je pourrais peut-être faire, c'est de vous aider à écrire votre histoire. Et en espérant un jour, votre histoire sera un film. Et avec ce film, vous allez gagner de l'argent. Avec l'argent, vous allez faire du livre. Donc on a commencé à écrire le premier film ensemble, pendant 6 mois. C'est là qu'on a tombé amoureux, on est devenus mari et femme.
Voilà une belle histoire. Comment vous avez appris le métier d'éditrice?
En faisant plein d'erreurs. C'est vrai en plus. J'apprends en faisant et je me débrouille comme un vrai étranger du métier, avec un regard un peu naïf, mais plein de rêves et énergie. Donc je provoque des rencontres des gens passionnés, mais en même temps que des gens qui viennent de métier qui veulent bien me donner un coup de main, comme M. Kalima, comme M. Christian Kalima, ou notre distributeur, Vladimir Lenti, ou notre financier qui a dit le business plan est nul, mais on y va, à nos collègues, en fait, qui croient ce que je crois, par pure passion et énergie. Et finalement, on avance comme ça, en faisant beaucoup d'erreurs.
Mais on avance quand même. À quoi ressemble une journée de Faye, l'éditrice ?
C'est pas du tout sexy, en fait, comme on peut imaginer que, tiens, on va éditer des livres, c'est tellement chic. La journée classique, c'est que je réponds beaucoup de mails. J'ai fait quelques entretiens de presse. Parfois, je passe des heures avec les auteurs chinois au téléphone. Et on travaille beaucoup avec notre diffuseur, distributeur et libraire. Je regarde beaucoup des contrats, puisque c'est un peu compliqué juridiquement. Faire des rapports des droits d'auteur, regarder, parler avec des avocats, des comptables, des bilans, de tout faire, quoi. Et parfois, si c'est des salons, je fais porter carton. J'ai lu des livres chinois pour chercher de nouveaux sujets. J'ai fait la psychologie des auteurs, la psychologie des financiers associés. En fait, c'est une sorte de ratatouille de petit entrepreneur qui essaie de faire des grands projets.
Alors, vous avez eu cette année, en 2015, le prix du patrimoine du Festival d'Angoulême pour Sand Mao. Comment expliquez-vous l'intérêt du public français pour les bandes dessinées chinoises ?
D'abord, la Chine, c'est pas la Chine il y a 20 ans. Je pense, même il y a 30 ans, ça aurait été pas possible de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, la Chine, c'est comme on a une personne géant qui a deux pieds, il y a deux jambes. Donc, il y a la jambe économique qui marche très vite, hein, qui va très loin. Mais il y a la jambe culture qui est totalement derrière. Mais on a envie de quand même connaître les personnes. Donc, les Français, peut-être par l'amour, donc la curiosité de ce pays, de cette culture, ou par la peur. Tiens, la Chine va nous tous bouffer. Juste voir comment il va nous bouffer. Donc, par cette émotion qui sont un peu contradictoires, par l'amour et la peur, on a envie de connaître la Chine. Et la bande dessinée, c'est vraiment un super moyen de connaître la Chine. Et en plus de ça, on a beaucoup d'amateurs de dessin et de la Chine, de littérature chinoise, qui s'attachent à nos bandes dessinées. Donc c'est plutôt ces trois raisons-là. La raison utile, donc l'amour, la peur, ou l'amour de dessin, ou l'amour de la Chine et de culture.
Quel est votre plus grand succès éditorial ?
Dans deux registres, il y a deux titres un peu différents. Dans le registre de création, c'est vraiment Yaya. Yaya, commercialement, c'est très réussi. Il y a vraiment... Les bandes dessinées sont très habitées. Et Juju Bao, c'est le même niveau. Dans la partie patrimoine, c'est vraiment les quatre classiques qu'on fait. Je pense souvent, quand je suis seule, que je peux mourir après ces quatre classiques.
Alors, vous avez aujourd'hui un pied en France et un pied en Chine. Quels sont vos projets du moment ?
En ce moment, on est en train de finir le dernier titre de 4 classiques, donc Le rêve dans le pavillon rouge. Donc le droit était très compliqué. On a passé beaucoup de temps à négocier les droits, à vérifier avec les auteurs des images, parce que c'est la meilleure version des années 50. On n'a plus les planches originales. Donc on a préparé la sortie, la mise en page, la communication, la diffusion. Et on va lancer aussi une collection de... des livres qui va être très utile et très pratique pour les gens qui veulent apprendre le chinois. On va sortir un dictionnaire à images qui est super drôle. Drôle dans le sens que on voit la Chine différente que la France. On voit comment ils ont expliqué tous les mots. Donc il y a dictionnaire à images, il y a chapitre mariage, chapitre études, chapitre restaurant. Donc ce dictionnaire va sortir cette année avec quelques autres titres liés à l'apprentissage de langue chinoise, avec d'autres nouveautés sur la création qui est en route. Donc ça tourne, et souvent c'est un peu long, parce que le moment qu'on commençait à avoir une idée dans la création de bande dessinée franco-chinoise, et le moment que ça sort, c'est 18 mois. Donc c'est long dans la partie création. Dans la partie de achat de droits ou l'apprentissage de langue, comme on est maladivement exigeant, ça prend beaucoup de temps aussi. Donc on est tout le temps en train de se poser les questions, est-ce qu'on veut vraiment que ça soit parfait, qu'est-ce qu'il faut faire, sans arrêt de se reposer des questions. Donc c'est beaucoup de réflexions, beaucoup de projets qui entrent, puisqu'on est un peu plus connu qu'avant, et beaucoup de travail d'équipe. Personne ne pourrait faire ça seul.
Ça, c'est sûr. Avec le recul, de quoi êtes-vous le plus fier ?
Je crois de mes parents.
Voilà une belle réponse. Sugue Fei, merci.
Merci à vous, Françoise.
Nous écoutions Sugue Fei, fondatrice à Paris des éditions Fei, spécialisée dans la bande dessinée chinoise. Si vous êtes à Paris, faites un tour au 1 rue Frédéric Sauton Sinon, le site des éditions Fay est fort bien fait et votre libraire préféré a forcément des ouvrages qui vous feront découvrir une autre Chine.